exploitants les plus pressés tenteront de trouver leurs préservatifs sur les sites de revente où ils sont déjà proposés à plus de 100 euros, alors qu'ils sont normalement mis à disposition gratuitement par le comité d'organisation. Un principe.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Envie de rire à Angers ?
La compagnie théâtrale du Pont d'Ardoise présente Un père et père de Ray Cooney.
Une comédie hilarante mise en scène par Carole Galisson.
Vendredi 20 et samedi 21 février à 20h précises, dimanche 22 février à 15h.
Salle Claude Chabrol, 14 rue des Pruniers à Angers, tarifs 9 et 5 euros, billetterie sur place.
Les infos au 06 22 40 12 83 et sur lepontdardoise.fr.
Attention, info circulation à Angers. En raison de la crue de la Maine, les voies sur berge sont fermées dans les deux sens à partir de 19h, entre La Baumette et Ramon-Saint-Serge. Des déviations sont mises en place selon les secteurs. La circulation est fortement perturbée, notamment depuis l'autoroute A11 vers le centre-ville. Les autorités appellent à la prudence et recommandent d'anticiper vos déplacements. Restez à l'écoute des informations sur le Maine-et-Loire pour suivre l'évolution de la situation.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir, vous êtes bien sur Topette au 101.5 FM, l'émission qui vous accompagne en fin de journée avec de l'énergie, des rencontres et tout ce qui fait vibrer notre territoire. Installez-vous confortablement, on est ensemble pour la prochaine heure. Alors non, ce n'est pas Pierre Benoît qui tient les commandes ce soir, mais rassurez-vous, il est bien là, dans les parages, on le surveille.
Bonsoir.
Et bonne nouvelle, on a encore la chance d'avoir Loris avec nous pour 3 jours. Ce soir, il va nous faire découvrir l'ASCAP 49. Loris, en quelques mots, tu peux nous dire brièvement ce que c'est ?
On va parler d'emploi, de solidarité, bon, je ne vous en dis pas plus.
Et ce n'est pas tout. Ce soir, on fera aussi une pause manette en main avec la chronique Let's Game pour notre moment jeu vidéo. On retrouvera en fin d'émission aussi l'incontournable Tonton Albert qui viendra nous parler de sa toute dernière découverte. Comme quoi on n'arrête jamais d'apprendre. Et ça, peu importe l'âge.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Mais avant tout ça, petit point actu avec toi Astrid.
J'ai l'info, l'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
À Angers, la mobilisation se poursuit autour des urgences du CHU ce samedi 14 février. Près de 200 personnes, soignants, syndicats et habitants se sont rassemblés devant la mairie puis devant la préfecture pour réclamer davantage de moyens. Depuis le 19 janvier, les personnels des urgences sont en grève. Ils demandent notamment l'ouverture de lits supplémentaires et la création d'un poste d'aide-soignant présent 24 heures sur 24. Selon eux, la situation reste très tendue. Les patients peuvent attendre plusieurs heures sur des brancards dans les couloirs, parfois faute de place pour être hospitalisé. Les syndicats évoquent un manque d'environ 40 lits pour accueillir les malades. La direction du CHU estime de son côté que l'activité est revenue à un niveau plus habituel après les pics hivernaux, mais les grévistes dénoncent des difficultés structurelles et réclament des soutiens durables. Une lettre ouverte a été adressée au maire d'Angers, également président du conseil de surveillance du CHU. Le personnel attend désormais des propositions concrètes dans les prochains un jour pour sortir de la crise. Côté politique, à l'approche des élections municipales de 2026 à Angers, un grand débat public va réunir les candidats. Il se tiendra le lundi 2 mars de 15h30 à 17h30 à la Chambre de commerce et d'industrie, boulevard du Roi René. L'événement est organisé par plusieurs médias locaux, notamment RCF, Ouest France, Le Courrier de l'Ouest et Angers Télé. Les têtes de liste officiellement déclarées qui ont jusqu'au 26 février pour se faire connaître pourront y présenter leur programme et répondre aux questions des journalistes. L'objectif de cette rencontre est d'éclairer les électeurs à seulement quelques semaines du premier tour. Le débat est ouvert au public, mais les places sont limitées à environ 190 personnes. L'entrée est gratuite sur inscription préalable en ligne. C'est un rendez-vous important pour la vie démocratique locale qui permettra aux Angevins de mieux connaître les projets et les priorités des candidats avant de se rendre aux urnes. Depuis plusieurs semaines, la pluie ne laisse aucun répit au Maine-et-Loire avec des cumuls largement au-dessus des normales de saison. Selon les relevés de Météo France et du site Infoclimat, près de 160 mm d'eau sont déjà tombés dans le département depuis le 1er janvier, soit environ 68 mm de plus que la moyenne habituelle. Cela représente un excédent de précipitations proche des 75%. Rien que sur février, près de 80 mm sont déjà tombés, bien au-dessus de la moyenne mensuelle. Cette météo très arrosée a des conséquences directes sur les cours d'eau. À Angers, la Maine continue de monter et pourrait atteindre le seuil des 5 mètres. Une situation liée notamment au niveau élevé de la Loire qui ralentit l'écoulement de la Maine. Face à cette montée des eaux, plusieurs communes de la banlieue d'Angers ont dû évacuer près de 900 habitants durant le week-end par mesure de sécurité. Pour autant, les crues hivernales restent habituelles à cette période, mais les habitants sont invités à rester prudents alors que de nouvelles pluies sont attendues dans les prochains jours.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Astrid. On va parler maintenant sortie théâtre. La compagnie du Pont d'Ardoise arrive avec sa comédie annuelle, Impair et Pair, une pièce de Récounet mise en scène par Carole Galisson. Une comédie pleine de rebondissements et de quiproquos qui promet de belles soirées. Le temps passe et les dates deviennent de plus en plus rares. Il reste encore à Angers, salle Claude Chabrol, 20 et 21 février à 20h, 22 février à 15h. Tarif 9 et 5 euros, billetterie sur place 30 minutes avant chaque représentation. Renseignements au 06 22 40 12 83. Et tout de suite, on accueille nos invités de la soirée avec toi Loris.
L'invité de Topette sur Radio G.
Aujourd'hui dans Topette, on parle emploi, accompagnement et surtout solidarité face à la recherche d'un travail. On est avec Régine et Sandra. Bonsoir Régine.
Bonsoir, merci de nous accueillir.
De rien et bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Vous êtes aujourd'hui les représentantes de l'ASCAP 49. Toi Régine, tu es la directrice et Sandra, tu es adhérente du groupe Motivaction. Donc on va parler ensemble de l'accompagnement proposé par l'ASCAP 49, du vécu des chercheurs d'emploi, du rôle du collectif à travers donc Motivaction et des liens construits avec les entreprises et les adhérents. Donc l'idée c'est de comprendre comment fonctionne l'association, ce qu'elle apporte concrètement aux personnes en recherche d'emploi et quels sont les enjeux aujourd'hui autour de la recherche d'emploi. Mais avant d'entrer dans les détails, Régine, en quelques mots, est-ce que tu pourrais présenter l'ASCAP 49?
Oui, bien sûr. L'ASCAP, c'est une structure qui a deux missions principales. Une première mission qui est d'accompagner principalement les demandeurs d'emploi avec une spécificité sur le public cadre et assimilé cadre. Et puis, c'est aussi un organisme de formation, centre agréé, bilan de compétences et certifié Calliope. En moyenne, dans l'année, on reçoit entre plus de 750 demandeurs d'emploi et on accompagne à peu près une centaine de personnes en formation, hein, des collaborateurs, des salariés, des dirigeants, des managers, voilà. Donc un public très très diversifié. L'origine de l'ASCAP, c'est l'accompagnement. Donc l'accompagnement des demandeurs d'emploi, spécificité cadre et assimilé cadre et par rapport à cet aspect-là, nous avons des bénéficiaires donc qui nous sont envoyés par des institutions comme France Travail, comme l'ALDEV, comme la région. Et puis nous avons aussi des adhérents, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui font le choix de venir à l'ASCAP et d'être accompagnés par l'ASCAP. Et dans ce cadre-là, bien c'est Sandra qui viendra parler d'une action très spécifique qui est Motivaction. L'ASCAP propose des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs, propose un certain nombre d'ateliers sur l'emploi, sur le projet, sur la confiance en soi. Et ce qui fait la spécificité de la SCAP, c'est son équipe. Hein, nous avons une équipe de salariés, nous sommes au nombre de 6 salariés. Nous avons des conseillers mentors qui sont des personnes qui donnent de leur temps, qui sont des retraités, qui ont occupé des postes à responsabilité, anciens dirigeants ou anciens cadres supérieurs. Et nous avons aussi une équipe d'intervenants extérieurs qui viennent animer les formations.
Et depuis quand existe ça existe la SCAP ?
La SCAP existe depuis 1982. Voilà. Et c'est une structure qui s'est professionnalisée en 98. Donc, c'est-à-dire qui a des salariés depuis 1998.
Et à la base, qu'est-ce qui a motivé la création de la SCAP ?
Oh, alors, à l'origine, c'était des demandeurs d'emploi, enfin, du moins des personnes qui étaient en activité et des personnes aussi qui recherchaient un emploi, mais qui s'interrogeaient sur leur devenir professionnel, donc en 82. On avait aussi ce type de questionnement en 82. Et c'était des cadres. Et ils se réunissaient tous les soirs. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais nous, ça nous fait du bien. C'est une reprise de confiance. Des opportunités qui arrivent, voilà, une remise en question sur notre mode de fonctionnement. Et donc, ils se sont dit, mais nous, si ça nous fait du bien, ça serait intéressant de pouvoir le diffuser. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'association ASCAP 49.
Et quand on arrive à l'ASCAP, comment commence notre accompagnement ? Comment on est accueilli ?
Alors, si vous êtes adressé, je dirais, par des institutions comme France Travail ou l'ALDEV ou le département, c'est des prescriptions, hein, on nous les envoie directement. Ils sont pris directement en charge par les salariés. Et puis après, nous avons donc les adhérents, ce qu'on appelle les adhérents, des demandeurs d'emploi qui viennent d'eux-mêmes. Et là, Sandra, donc, qui est là, qui en parlera et qui témoignera, ce sont des personnes, ils appellent directement à la SCAP, c'est aussi simple que ça. Et ils vont être accueillis par Hélène, qui va très rapidement leur proposer un rendez-vous avec un conseiller mentor. Donc il y a ce premier rendez-vous, il faut connaissance ensemble sur leurs besoins, sur leurs attentes, on présente la SCAP et s'ils ont envie, eh bien on commence l'accompagnement, ils deviennent adhérents.
Régine, on doit être en demande d'emploi, est-ce qu'on est obligé d'être adhérent à France Travail ou d'être catégorisé comme tel avant d'aller à la SCAP si on y va de sa propre initiative ?
Pas du tout. On a des demandeurs d'emploi. Alors, en règle générale, ils sont inscrits à France Travail, hein, mais on a aussi des salariés qui souhaitent changer de métier et donc ils nous recontactent ou ils nous contactent. Quand je dis recontact, parce qu'on a des adhérents qui retrouvent un emploi et on est toujours en contact avec eux.
Il y a un profil type dans les demandes d'emploi ou?
Alors pour les adhérents, oui, c'est vraiment un profil cadre et assimilé cadre. Voilà. Après, ce qu'on appelle les bénéficiaires, c'est-à-dire les institutions qui nous envoient des demandeurs d'emploi, là on est sur du tout public.
Et dans le parcours de vie, dans le parcours professionnel, il y a des similitudes ou ça vient à peu près de tout horizon ?
Ça vient de tout horizon et c'est ce qui fait la richesse de notre métier, c'est que on rencontre des personnes extraordinaires avec un réel potentiel et qui sont tous différents des uns des autres.
Et je me tourne vers toi, Sandra. Comment t'as entendu parler de la SCAP ?
Alors moi, c'est une de mes amies qui m'en a parlé parce qu'elle avait été accompagnée par la SCAP et que ça l'avait énormément aidée et qu'elle a trouvé le job de ses rêves derrière grâce à l'accompagnement qu'elle a reçu à la SCAP. Et elle voyait que je galérais dans ma recherche d'emploi et que je m'en sortais pas en fait dans mon petit huis clos toute seule malgré tous mes efforts. Et tout à l'heure, Régine, tu parlais de la force du groupe et c'est exactement ça qui m'a amenée à l'association. D'abord, j'ai eu un conseiller dédié. Donc les fameux conseillers bénévoles, jeunes retraités qui partagent avec nous notre expérience et portent un regard sur où on en est dans nos démarches et nous aident en fait à mieux orienter les choses. Et puis j'ai fait différents ateliers, notamment autour de la confiance en soi, de la perception du monde du travail, etc. Et puis là a commencé au mois d'octobre ce fameux groupe Motive Action dont je fais partie.
qui a été initié par des conseillers bénévoles de la SCAP. On est en ce moment une dizaine d'adhérents qui participons à ce groupe.
Tu as parlé d'ateliers. Est-ce qu'il y en a un qui se démarque dans tous les ateliers que tu as fait?
Alors, c'est très divers en fait. Il va y avoir des ateliers qui vont nous faire travailler sur notre recherche à proprement parler, d'autres qui vont questionner notre posture de chercheur d'emploi. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup intéressée, et notamment grâce aux gens que j'ai rencontrés. C'est pas seulement ce que j'y ai appris, c'est aussi les rencontres que j'ai faites avec d'autres chercheurs d'emploi. C'est l'atelier du changement qui était animé par une psychologue du travail et qui nous faisait travailler sur la perception qu'on a du monde du travail et les relations avec nos collègues, avec nos managers, etc. Et du coup, chacun partageait un petit peu ses expériences de vie, ses parcours. Et moi, le constat que j'en ai fait, c'est à quel point ça me portait, que ça alimentait ma réflexion, et avec des profils tous très différents. Donc ça, c'était très, très riche.
Pour conclure à peu près cette partie, une question qui peut paraître bête, mais le retour à l'emploi, c'est la finalité de tout cet accompagnement ?
Alors, c'est une des finalités. Aujourd'hui, on est entre 65 et 70% de retour à l'emploi. Quand je dis une des finalités, parce que retrouver un emploi, c'est une chose, et retrouver aussi sa dignité, sa confiance en soi, c'est un élément essentiel. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que le retour à l'emploi.
Eh ben, merci Loris, Sandra et Régine. On vous retrouve dans quelques instants, mais d'abord, petite pause musicale.
Shank of the day. What to do? Take a cup, drink the sleepy away. Pennies up. Hear the paw scratch the back of the door. The sun is out. Take a break, don't know what it's from. How can I convince myself? Convince myself to stay. One more day.
Sur Topette au 101.5 FM. On revient avec Loris, Régine et Sandra pour poursuivre notre échange sur l'ASCAP 49.
Topette sur Radio G.
Oui, du coup, on s'est attardé sur l'ASCAP 49. Là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Du coup, avec toi, Sandra, qui est adhérente au groupe Motivaction, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le groupe ?
Alors, en gros, il a été initié par des conseillers bénévoles de l'ASCAP pour proposer à des chercheurs d'emploi, comme moi, de se réunir pour échanger sur les différentes problématiques qu'on rencontre. Parce qu'on est très vite isolé quand on cherche un travail, et même si on est hyper proactif, il y a un moment où on se sent très très seul. Et du coup, de pouvoir en discuter avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations, qui font face aux mêmes questionnements, et du coup partager nos expériences, eh ben ça aide à avancer, à être positif, à retrouver aussi de la confiance en soi, comme ça a été un petit peu évoqué auparavant. Donc là, on est actuellement une dizaine de chercheurs d'emploi à se réunir tous les lundis matin de 9h à 12h30 pour échanger sur le petit bilan de la semaine passée et les objectifs de la semaine à venir. Et puis ensuite, en deuxième partie de séance, on aborde différentes thématiques sur lesquelles on a envie d'échanger. Donc ça peut être comment aborder la rémunération pendant un entretien, l'influence de l'intelligence artificielle sur la recherche d'emploi, la question des réalisations probantes, la question de LinkedIn. Enfin voilà, on s'interroge un petit peu, chacun mène son regard, ses compétences.
Et c'est un groupe qui est ouvert à tous ou il y a souvent des nouveaux adhérents ou c'est...
Alors en fait, l'objectif c'est vraiment qu'il meure de sa belle mort, ce groupe, comme disent nos conseillers qui nous accompagnent. En fait, le deal c'est quand on trouve un emploi, on amène des chouquettes. Donc il y a certains participants qui étaient là au début du groupe au mois d'octobre qui ont trouvé un emploi entre temps et qui du coup sont partis, et il y en a d'autres qui sont arrivés en cours de route. Donc du coup il y a vraiment de la vie dans ce groupe et des regards différents qui viennent à chaque fois apporter leur expérience, leur parcours, etc.
Je rebondis sur ce que tu dis, Sandra. Le groupe s'est arrêté pendant au moins un an. Parce que justement, en 2024, il n'y avait plus de membres dans le groupe, tout simplement parce qu'ils avaient tous retrouvé du travail. Et on a remis en place le groupe en octobre, parce qu'il faut au moins une dizaine de membres pour que ça puisse être motivant, dynamique, voilà, qu'il y ait tous les bénéfices. Mais on l'a arrêté en 2024, parce que tout le monde avait retrouvé du travail.
Toi, Sandra, tu as évoqué brièvement le déroulé d'un lundi matin. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément il se passe quoi dans ces réunions, dans ces moments d'échange ?
Alors l'idée c'est vraiment que chacun puisse avoir un temps de parole où il parle de sa situation de façon plus spécifique, parce qu'il y a un moment on a besoin d'en parler, et du coup on écoute tous avec beaucoup d'attention et de bienveillance, et on réagit en fait les uns les autres aux différentes problématiques qui sont évoquées. On apporte des conseils, des regards extérieurs, on partage nos expériences, on se motive. Il y a vraiment ce truc de mais c'est super. En fait, tu nous dis que tu étais un peu down la semaine dernière, mais tu te rends compte comme tu as été proactif, tu as fait tout ça. Ça paraît très bête, hein, mais c'est hyper important de l'entendre dire, parce que quand on est isolé tout seul dans sa recherche d'emploi, on ne se rend pas compte en fait à quel point on avance, mine de rien. Et c'est vrai que des temps qui peuvent paraître courts sont finalement des temps longs, et inversement. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Moi, je me comprends.
C'est comme le petit colibri qui prend une petite goutte d'eau à chaque fois pour aller éteindre l'incendie. Ça avance un peu, mais des fois, ça va plus vite.
Ouais, et on est vraiment porté par la dynamique de groupe. C'est-à-dire qu'on vient chacun avec nos motivations, nos parcours, et d'avoir le regard des autres, le soutien des autres. Moi, par exemple, lundi dernier, j'étais un peu down. Et ben, j'ai une des adhérentes du groupe qui m'a fait un petit coucou dans l'après-midi. Ah, bah tiens, j'ai pensé à toi. Allez, on se remotive, on va y arriver. Eh ben ça paraît rien, hein. et en fait de l'entendre de quelqu'un qui est dans la même situation, eh ben c'est pas la même réaction que quand on entend d'un proche ou de sa famille en fait.
Tu parles de liens, il y a des rencontres en dehors des réunions, il y a des amitiés qui se créent.
Alors, potentiellement, je sais que dans l'ancien groupe, il y en a beaucoup qui sont restés en contact. Nous, on essaye de prendre un peu des nouvelles de ceux qui nous ont quittés, genre, est-ce que ça se passe bien, ton nouveau poste ? Après, bah, comme dans la vraie vie, hein, il y a toujours plus ou moins d'affinités. Il y en a qu'on voit dans le cadre du groupe, parce qu'on est là avec un objectif commun. Là, voyant, en partant ce matin, on s'est dit, bah tiens, on serait bien une petite rando en anglais, histoire de prendre l'air et de s'aérer un petit peu. Donc voilà, ça peut créer des moments comme ça. Ou bien, on va se créer un temps de travail que entre adhérents, sans les conseiller, en visio, ensemble, à un autre moment de la semaine, par exemple.
Il y a des rencontres avec des professionnels, parfois ?
Oui, ça fait partie de nos objectifs, de recevoir différents professionnels pour avoir un peu leur regard sur le marché de l'emploi. Donc, jusqu'à présent, on a accueilli deux directrices d'agences d'intérim. Et là, dans les prochaines rencontres, on va accueillir des cabinets de recrutement ou des intervenants sur certaines thématiques, comme par exemple sur la question du réseautage.
Et comment se passent ces entretiens, ces rencontres ? C'est pour faire du réseau ou c'est pour avoir un point de vue global sur le monde du travail ?
Les deux, mon capitaine. Et puis l'idée, c'est que du coup, la démarche, elle soit portée vraiment par les adhérents du groupe. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que quelqu'un fasse le travail à notre place. Nous, on va aller chercher les interlocuteurs, porter la parole, expliquer comment ça va se passer, accueillir l'interlocuteur. Et puis voilà, avoir un peu les tips sur ce qui se passe en ce moment dans le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui va marcher ou pas sur un CV, comment faire la différence sur un profil, est-ce qu'on se retrouve dans la démarche qui nous est décrite ou est-ce qu'au contraire on prend des petits conseils qui vont nous être utiles pour la suite.
Je reviens un peu à la base, je reviens vers toi Régine, la création du groupe Motivaction, je ne sais pas si comment ça a été créé, ça vient de quelle idée ?
Alors, on travaille beaucoup avec l'ALDEV. Entre autres, on anime ce qu'on appelle les clubs de l'emploi. Les clubs de l'emploi, ce sont des groupes qui vont aller rechercher du travail, mais c'est surtout, on va travailler avec eux le réseau. C'est-à-dire qu'ils vont aller frapper aux portes des entreprises pour se faire connaître. Donc, on anime ces clubs de l'emploi depuis maintenant 7-8 ans. Et le premier club, ils ont dit, mais il faut surtout continuer à mettre en place ces groupes. Donc, on a créé un groupe très spécifique qui était Talents et Compétences, où là, ils se réunissaient une fois par semaine et ils allaient frapper aux portes des entreprises. Donc, je vous parle de ça il y a 7-8 ans. Donc, on a continué à la SCAP à mettre en place ce groupe. Et puis, il y a maintenant, en 82, donc plus de 40 ans, ça a été l'origine de la SCAP, c'est de mettre en place des groupes de chercheurs d'emploi et pour rompre l'isolement, pour créer une dynamique de recherche d'emploi. Et l'année dernière, en 2025, on a fait le choix de réunir les deux groupes et de créer Motivaction. Voilà, donc ils sont là pour rompre l'isolement, pour trouver de la bienveillance, pour trouver une dynamique. Et ils sont là aussi pour avancer dans leur recherche d'emploi et dans le cadre du réseau.
Pardon, vous aurez remarqué la subtilité de vocabulaire. On n'est pas des demandeurs d'emploi, on est des chercheurs d'emploi. Et ben, mentalement, ça fait beaucoup la différence.
Ce qu'un chercheur trouve, a priori.
Bah, c'est tout l'objectif.
C'est ça.
Je voulais vraiment une petite dernière question pour clôturer cette partie. Toi, Sandra, personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté, Motivaction ?
À moi, c'est vraiment le côté, comme l'évoquait Régine, rompre l'isolement et bénéficier du regard des autres. Quand on est enfermé dans une situation, on tourne en rond avec nos problématiques. Et du coup, ça ouvre un peu les perspectives et le regard. Ça crée aussi du réseau parce qu'on vient d'horizons très différents les uns des autres. Il va y avoir des personnes qui vont chercher dans la culture, dans les ressources humaines, dans la gestion de projet, dans le marketing, j'en oublie sûrement, dans l'insertion, dans la formation. Donc vraiment, on a des profils très différents. Mais il n'empêche que chacun avec son expérience va pouvoir apporter de l'eau au moulin des autres en fait.
Et ben on vous retrouve tout de suite sur Topette au 101.5 FM, mais avant ça, place au gaming, on retrouve Mathieu pour sa chronique Let's Game.
Let's Game, la chronique gaming de Topette avec Mathieu.
Aujourd'hui on va débunker une idée reçue, les jeux vidéo rendent violents. Récemment, Monsieur le Président est intervenu en fustigeant les jeux vidéo comme un repère de violence qui conditionnerait les enfants à être eux-mêmes violents et a émis l'hypothèse de les interdire aux enfants de moins de 15 ans. Intéressons-nous maintenant à ce que disent les études et les scientifiques qui se sont justement intéressés à ce sujet. Je vais juste me permettre de citer l'intervention du président qui dit, je cite, les jeux vidéo où on descend tout le monde, dont Fortnite, c'est pas la vie. C'est parce que ça déréalise le rapport à la violence. Maintenant, dans un article du CNRS daté de décembre 2025, le chercheur Laurent Beck-Schunkland, chercheur à l'Institut de Grenoble, s'appuie sur une méta-analyse regroupant plus de 130 000 participants pour corroborer les dires du président. En effet, celle-ci a montré que la pratique des jeux vidéo violents entraînait une augmentation des pensées, des émotions et des conduites hostiles, une diminution des conduites coopératives et une élévation de l'éveil psychologique. Cependant, il nuance le propos, car les seuls effets que peuvent avoir les jeux vidéo consistent à s'énerver un peu quand on est en voiture, par exemple, mais pas au point d'avoir des situations de violence grave, voire d'homicide. Également, un rapport publié en 2015, qui regroupe plusieurs méta-analyses, fait le constat suivant. Le jeu vidéo augmente l'agressivité, oui, mais n'augmente pas forcément la violence. En effet, nous avons tous été en difficulté face à ce satané pot de cornichon qu'on était incapable d'ouvrir de force et on n'y arrivait pas. Nous sommes tous donc devenus à un moment d'une certaine manière agressifs. Est-ce que ça a fait de nous des tueurs en puissance? J'en doute. Bien évidemment, dès qu'il y a des faits divers incluant des jeunes, c'est de la faute du jeu vidéo. Sachant que 95% des enfants jouent à tout type de jeu vidéo actuellement, il est donc difficile de mettre en avant cet argument. Il s'agit d'un raccourci. Un peu comme si tous les joueurs de football simulaient lors d'un match de foot. Vanessa Lalo, psychologue spécialiste des pratiques numériques, va plus loin, puisque selon une étude menée dans les années 90, la criminalité baisserait aux États-Unis à chaque sortie de jeu violent. Elle insiste également sur le fait que les jeux vidéo sont un reflet de la société. Si les jeux vidéo sont de plus en plus violents, c'est également que notre quotidien est lui-même de plus en plus violent. Certains types de jeux vidéo peuvent même être un défouloir à la frustration et à la violence. Je pense notamment aux jeux de type beat'em all, à l'image de Street of Rage ou d'un Double Dragon. Il s'agit d'un jeu de combat dans lequel le ou les joueurs doivent vaincre des vagues d'ennemis. À savoir qu'à la base, l'histoire des deux jeux cités consiste à faire justice soi-même et à combattre la criminalité. Si on en revient maintenant à la prévention, si on parle de quoi on joue, si on est écouté, si on peut choisir les jeux adaptés à notre âge, pourquoi se priver de jeux éducatifs parce qu'on n'a pas 15 ans? Jouer à Professeur Layton, à Pokémon, à Mario, pour ne citer que, ne fait pas des enfants des tueurs en puissance. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes, si je peux m'exprimer ainsi, et voici quelques conseils. Quand on est enfant, il faut parler de ce à quoi on joue avec nos parents, et peut-être même les inviter à jouer avec nous. Quand on est parent, il faut prendre le temps d'écouter son enfant, nous parler de ce qu'il a vécu au travers du jeu vidéo, mais également de l'orienter vers des jeux vidéo adaptés à son âge. Cela ne nous viendrait pas à l'esprit de montrer un jeu d'horreur à nos enfants, alors pourquoi est-ce qu'on les fait jouer à des jeux du même type? Pour être plus précis, concernant le temps d'écran, à partir du moment où on observe une baisse de l'attention à l'école, une chute des notes ou un repli sur lui-même, refus de sortir, arrêt des activités sportives notamment, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas forcément lié au jeu vidéo, mais que celui-ci peut dupliquer. Je vous invite également à aller regarder les travaux de Serge Tisseron et sa règle 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir. En conclusion, et d'après tout ce que je viens de dire, non, le jeu vidéo ne rend pas violent, mais ce n'est pas une raison pour en abuser, car il peut mener à l'isolement et à d'autres dangers. Sur ce, jouez bien, mais avec modération.
Merci Mathieu. Tout à l'heure, nous serons aussi avec Tonton Albert, mais avant tout, revenons à notre discussion principale avec vous, Sandra, Régine et Loris.
Topette, avec Pierre Benoît.
Oui, donc pour clôturer cette interview, on va parler un peu du secteur du travail, de son état, des questions qui régissent autour de ce sujet. Du coup, on est avec Régine...
qui fait des gros yeux.
qui s'attendait pas à une discussion, une dissertation sur la thématique.
Vaste sujet, oui.
Donc on est avec Régine, directrice de l'ASCAP, et Sandra, qui est adhérente au groupe Motivaction. Une question simple, quel est l'état du marché du travail, du secteur du travail actuellement?
Très simple comme question.
Pourquoi vous me regardez tous, hein?
Alors,
avec le regard que j'en ai, aujourd'hui, on voit que ça évolue depuis maintenant plusieurs mois. C'est vrai qu'on parle de beaucoup d'entreprises hein, qui aujourd'hui sont en difficulté, etc. Et nous, on voyait pas forcément plus de demandeurs d'emploi. Et là, on s'aperçoit quand même que le marché est en train de bouger, de changer. Le retour à l'emploi, s'il était plus rapide il y a un an, aujourd'hui, retrouver un emploi, on arrive vers 9 mois, 12 mois de recherche.
J'entends souvent qu'il y a une exigence autour du marché de l'emploi. Est-ce que c'est vrai? Il y a une plus grosse exigence que, par exemple, il y a 10 ans, il y a 5 ans? J'entends souvent ça.
Alors, il y a toujours eu une exigence. Maintenant, je pense que le recruteur ou l'employeur va avoir une vision peut-être un peu différente, c'est-à-dire qu'il va aller rechercher des profils qui va avoir un savoir-être, hein, qui va avoir des valeurs, qui va avoir un cadre qui va être sur qui ils vont pouvoir compter, parce que il faut pas oublier que quand on recrute aussi, ben ce que l'on veut c'est trouver le candidat idéal et donc on va mettre des paramètres extrêmement importants et on va essayer de chercher le mouton à cinq pattes, hein, c'est souvent ce qu'on dit. Aujourd'hui, moi je vois bien moi-même qui recrute aussi, je vais d'abord aller chercher un savoir-être, une personne avec une façon de, avec des vraies valeurs. Alors quand je dis des vraies valeurs, avec une conscience professionnelle, avec une personne qui a envie de s'investir, avec quelqu'un qui a envie d'intégrer un groupe, qui a envie d'intégrer une entreprise. Après, les compétences, le savoir-faire, comme on dit, c'est secondaire. C'est-à-dire qu'un savoir-faire, on peut toujours le développer au cours de formation ou par le biais d'expérience.
Un diplôme ne garantit pas d'avoir un savoir-être, l'expérience, la maturité
bien
aussi.
Sûr.
Il joue. On sait qu'en France, souvent, on caricature souvent que la France est un pays à diplôme, quoi. On préfère quelqu'un qui a un diplôme ou pas. Donc, ça voudrait dire que pour toi, selon ton point de vue, ça commencerait à évoluer cette mentalité. On chercherait plutôt des personnalités plus que au-delà des compétences.
Alors, je dirais que ça va dépendre aussi des métiers. Je vais prendre l'exemple d'un psychologue. Un psychologue, il faut absolument qu'il ait un master. Donc il y a des métiers où il va y avoir une exigence de diplôme en France. Et puis il y en a d'autres où on peut faire un transfert de compétences. C'est-à-dire qu'on peut avoir travaillé dans un secteur d'activité où on a développé des compétences comme une relation clientèle, comme tout ce qui est l'accompagnement. Moi aujourd'hui, l'ASCAP a recruté dernièrement une personne. C'est une personne qui a fait 20 ans en entreprise et qui s'est formée récemment au métier de conseillère à l'emploi. Voilà.
On parle de secteur d'emploi, enfin de travail, de marché du travail. Il y a un outil qui est quand même indispensable, c'est le CV. Est-ce que c'est encore un outil qui est central aujourd'hui et comment on le travaille, comment
Surtout la rubrique savoir-être du coup.
Alors aujourd'hui, dans le CV, vous avez une rubrique savoir-être que nous, on va appeler à tout personnel, où on vous demande aussi dans un CV profil, en quelques lignes, vous parlez de vous. Et c'est là aussi que vous allez parler de votre expertise professionnelle et vous allez aussi parler de votre savoir-être. C'est vraiment un aspect qui rassure le recruteur.
Et il y a un outil aussi qui est encore pas à négliger, c'est LinkedIn. Est-ce que vous pouvez nous en parler Sandra, par exemple.
Alors moi, je ne sais pas si je suis la meilleure utilisatrice de LinkedIn, mais effectivement, je pense que c'est essentiel aujourd'hui, sachant que un très fort pourcentage du marché de l'emploi est caché entre guillemets et dépend vraiment des réseaux. Et je pense que LinkedIn sert vraiment à ça, à créer des réseaux, à entrer en contact avec des professionnels, à provoquer des échanges, à défaut d'aboutir à un recrutement. Pour le coup, il y a vraiment cette notion d'échanger des coordonnées, des savoir-faire, d'alimenter la réflexion et élargir le réseau du coup.
C'est comme MotiveAction, mais en version numérique et beaucoup plus élargie, d'une certaine façon.
D'une certaine manière.
Et puis LinkedIn est au niveau national, international. LinkedIn est partout.
Reconnu.
Il est reconnu et partout. Et on peut aller contacter des personnes dans le monde entier. C'est ça qui est extraordinaire.
Moi, par exemple, ça m'a permis de rentrer en contact avec des gens pour mener pas mal d'enquêtes métiers, parce que je m'interroge sur une reconversion. Et en fait, ces gens-là, je les ai demandés en ami sur LinkedIn, je leur ai envoyé un petit message, voilà, je m'intéresse à votre métier, j'aurais aimé en échanger avec vous. Des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et ben voilà, on a pris un verre ou un coup de téléphone ensemble, et on échange, et ça m'a permis d'alimenter ma réflexion et de faire avancer ma réflexion.
Plus globalement aussi, un sujet qui est assez central, c'est l'IA. Comment il s'insère dans votre métier? Quelle place il prend?
Un ennemi ou un outil?
Alors, je dirais que ça dépend où on se place. Pour ma part, j'utilise l'IA. Je l'utilise pour pouvoir approfondir ce que je fais au quotidien. Ce qui est important avec l'IA, c'est de savoir prompter. Voilà, et ça c'est extrêmement important, et que ça soit un outil qui vienne vous aider à aller plus loin dans votre réflexion, dans votre créativité. Par contre, c'est pas lui qui doit faire, et c'est là où c'est extrêmement important avec l'IA, c'est que il faut pas le subir, ou c'est pas lui qui doit prendre la place de. Maintenant, c'est aussi un bon outil. Ça peut être aussi un bon outil au quotidien. Voilà.
Oui. Donc, on a encore un petit peu de temps.
Alors moi, en fait, juste, je voudrais profiter d'être sur votre antenne déjà, vous remercier de nous accueillir, parce que c'est chouette d'avoir l'occasion de montrer nos actions, parce que c'est souvent un petit peu souterrain quand on est dans la recherche d'emploi, tout ce qu'on fait. Et juste trois petits messages. D'abord, je veux vraiment remercier les conseillers bénévoles qui nous accompagnent, parce que c'est hyper précieux d'avoir leur expérience, leurs conseils, leur bienveillance. Ça rebooste à des moments où parfois c'est difficile. Deuxième message, s'il y a des recruteurs qui nous écoutent et qui ont envie de rencontrer notre groupe, nous, ça serait avec plaisir qu'on viendrait ou qu'on les recevrait pour pouvoir échanger sur eux, comment ils fonctionnent dans leur recrutement, quel genre de profil ils recherchent, etc. Et puis troisième message, et il est essentiel pour moi, je veux envoyer plein d'ondes positives à tous les chercheurs d'emploi et à mes collègues du groupe Motivaction, évidemment. Et si vous êtes chercheur d'emploi, que vous vous sentez isolé, que c'est dur pour vous, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe, parce que vraiment on est là pour serrer les coudes et avancer ensemble.
Okay. Merci beaucoup. Et Régine, toi, si tu as un
alors,
message.
Merci Sandra, c'est elle qui a fait le mot de la fin, c'est très bien. Et ça montre bien aussi, vous voyez, l'ASCAP, c'est ça, c'est l'adhérent qui fait le mot de la fin. Et merci. Et merci à vous de nous accueillir et de nous permettre de parler de notre structure qui aujourd'hui est une structure qui est dynamique et heureuse de faire ce qu'elle fait aujourd'hui.
Ben merci à vous de venir, surtout parce que c'est vrai que ce type de structures, de dispositifs qui peuvent exister, quand on est en décrochage d'une certaine façon, ben c'est le principe du décrochage, c'est qu'on est trop loin, on ne sait pas où est-ce qu'on doit aller chercher, donc ça fait comme un phare un petit peu au milieu du brouillard d'une certaine façon.
Exactement.
Au moins, le message a été dit. Loris, Sidonie.
Je voulais rejoindre Pierre Benoît pour vous remercier d'avoir mis en lumière ces situations d'isolement liées au manque d'emploi, des réalités qui sont parfois invisibles, on va pas se mentir, mais qui sont bien présentes. Et du coup, sur ce, merci à vous, merci à Loris, fidèle à son poste, comme toujours, mais on va pas trop le complimenter.
Micro en main, Loris. Hein.
Bravo Loris, merci. Et puis, on va finir l'émission avec Tonton Albert, du coup. Passez une très belle soirée sur le 101.5 FM, et comme on dit chez nous, topette.
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 Dis-moi, tonton, je te vois afficher un petit sourire en coin. Tu nous as repéré quelque chose d'amusant ?
Amusant, c'est un bien grand mot. Pourtant, je crois qu'il vaut mieux en rire, car les situations que je vais décrire aujourd'hui sont appelées à se généraliser et à s'amplifier dans les années futures.
Ne me dis pas que c'est encore la SNCF qui t'a fait des misères, mon tonton.
Non, je te rassure. De ce côté-là, le risque est limité. J'ai tellement été échaudé par les bizarreries dont m'a fait bénéficier, si je puis dire, ce transporteur, que je me tiens désormais à bonne distance de la moindre gare, ce qui m'évite pas mal de problèmes. Mais notre monde moderne et connecté nous offre heureusement d'autres belles opportunités pour s'arracher les cheveux ou hurler à la mort de désespoir au choix.
Allons bon, te voilà prêt à t'arracher les cheveux tout en ricanant dans ton coin ? Et en même temps, tu parles de notre monde moderne et connecté. Quelque chose me dit que tu es allé faire un tour sur Internet. Je me trompe ?
Tu as parfaitement raison, Sidonie. Et ce n'est pas une anecdote ou deux que je rapporte de mon expédition sur la toile, mais bien tout un florilège de trucs bizarres, tout un ensemble de réponses surprenantes à mes pauvres petites questions anodines. Ce qui m'a amené à la conclusion suivante, autant de stupidité en libre accès, ça n'est pas humain. Et le fait est que bon nombre, sinon la totalité des absurdités que j'ai pu relever récemment, ont pour origine un sacré bazar auquel nous allons être de plus en plus confrontés, j'ai nommé l'IA.
La fameuse intelligence artificielle.
Eh bien tu vois, Sidonie, moi j'ai pris l'initiative de la rebaptiser imbécilité absolue. Je vais illustrer mon propos de quelques exemples afin de montrer l'étendue des dégâts et de justifier ma position avant que le syndicat des robots ne m'envoie ses avocats. Je vais donc te proposer un tour d'horizon, non exhaustif bien sûr, d'organismes divers et variés qui ont recours à la robotisation effrénée. Commençons par une institution qui a déjà fait preuve par le passé de dysfonctionnements mémorables et que je ne présente plus, à savoir l'assurance maladie. Dernièrement, j'ai posé une question au robot censé répondre aux légitimes interrogations des usagers. Ma question était la suivante.
Pourquoi une même consultation de généraliste à un mois d'intervalle est-elle remboursée 12 € et non plus 19 ?
A priori, il doit être possible d'indiquer les raisons d'une telle différence sans risquer la surchauffe cérébrale. Je fus donc stupéfait de voir s'afficher la réponse suivante produite par le robot joliment prénommé Amélie Bot. Je comprends beaucoup mieux quand il y a moins de mots. Par exemple, je n'ai pas eu, mais IJ. Voulez-vous bien réessayer ? À ce stade, évidemment, l'éclat de rire ou l'envie de hurler, c'est selon, a de bonnes chances d'émerger. D'autant que l'absence de réponse concrète à la question posée s'accompagne d'un curieux additif. Êtes-vous satisfait par la réponse que je vous ai proposée ? Oui, assurément, j'apprécie au plus haut point qu'un robot se paye ma tête. On continue ?
Allez, on continue.
Après l'assurance maladie, on passe à l'assurance tout court. Avec deux exemples. Dans un premier temps, il s'agit d'un message envoyé par la compagnie d'assurance dont j'ai résilié le contrat et qui m'invite à signer vos documents d'assurance en cliquant sur le lien ci-dessous. Accédez à votre espace de signature. C'est essentiel pour finaliser votre souscription et nous vous recommandons de le faire rapidement. Celles et ceux qui ont suivi depuis le début seront aussi interloqués que moi puisqu'il est question d'une rupture de contrat et non d'une souscription. Voyons voir si la concurrence comprend mieux mes volontés les plus banales. Sans trop de surprise, je me trouve confronté à une bonne dose de surréalisme en recevant ce message. En attente de documents de votre part, ne pas répondre. Face à tant de versatilité, je me suis brièvement interrogé. Est-ce que je fais le bon choix en changeant d'assurance ? Comme j'en suis à une sorte de nettoyage de printemps administratif, j'ai décidé de mettre à jour mes papiers d'identité.
Aïe !
Je te l'accorde bien volontiers, ma jeune amie. Une telle démarche peut s'apparenter à du masochisme. Tant l'outil mis à la disposition du demandeur, on est prié de ne pas rire quand on parle de mise à disposition, est aussi fiable qu'un traître dans une pièce de Shakespeare. Pour preuve, il m'a fallu la bagatelle de 4 essais successifs pour qu'enfin le site de l'ANTS m'informe que ma demande de renouvellement de carte d'identité s'avérait validée. Auparavant, j'avais systématiquement obtenu ce doux message fait pour stimuler mon infinie patience. Erreur ! Suite à un problème technique, votre demande n'a pas pu aboutir. Merci d'essayer ultérieurement. Je m'en tire bien, je ne me suis pas fait engueuler pour avoir tiré le robot de sa sieste. Ah, un détail amusant, si vous tapez simplement ANTS dans la barre d'un moteur de recherche hégémonique, parmi les premières suggestions, vous noterez « Service indisponible » et « Page non trouvée ». La démonstration, s'il était besoin que nous sommes face à un service particulièrement performant, est par malheur désormais incontournable. L'analyse qui découle de cette excursion au pays du grand n'importe quoi en ligne, c'est de constater que tous ces organismes ont dû faire appel aux mêmes stagiaires de troisième pour élaborer leur site internet. L'usager qui y est confronté est prié de ne pas oublier d'avaler ses calmants avant de se connecter. Visiblement, l'internet low cost est une règle intangible et c'est un moyen pour que le personnel résiduel de ce qui s'est appelé un temps le service public ne soit pas dérangé par nos sollicitations. Car il faut bien reconnaître qu'à force de supprimer des postes un peu partout, le boulot doit cependant continuer à être effectué. Et le recours à la sacro-sainte technologie devient alors inévitable. Et qu'importe si le service rendu l'est de manière totalement aléatoire, voire pas rendu du tout. Dans ce dernier cas, les robots, c'est tout de même bien pratique pour nous apprendre à nous passer de ce dont nous avons pourtant besoin.